la belle-mère ne se sente oubliée, je la salue elle aussi. Ah, mais la voilà qui se connecte. Donc, shalom, shalom, la belle-mère. Encore une ou deux minutes et on va commencer. Bonjour Didier, Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour Babette. Bonjour Andreas. Soyez bénis. Élever la voix pour commencer, après ça on va dire comment on procède pour aujourd'hui. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, un moment Seigneur encore pour nous réjouir tous ensemble, élever nos voix tous ensemble et te célébrer une fois de plus unis dans la prière, dans l'intercession et dans la recherche de ta face. Alors Seigneur, nous te demandons de prendre contrôle de cet instant, de prendre contrôle de ce temps, de diriger nos pensées, de diriger nos paroles et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur et que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur, Sauveur, Maître, Propriétaire, Ami et Conseiller, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comment on procède aujourd'hui? On va avoir notre temps de prière, bien entendu. On va juste finir l'étude de ce matin. Je vous disais que je vous expliquerai comment ce verset de la semaine est important pour moi, comment il a modifié ma vie, assurément. Et donc, ça va être l'occasion de partager un peu. Et après ça, on va prendre un temps dans la prière, bien entendu, puisque c'est une journée de jeûne et de prière. On vous rappelle que ce soir, on a rendez-vous à 19h30, à 19h plutôt, je m'excuse, je ne vais pas vous amener en erreur là. On a rendez-vous donc ce soir à 19h pour notre temps de prière et d'intercession comme nous avons à tous les vendredis. Alors, je relis pour vous le verset qui était thème de la semaine. C'est le pasteur Sergio qui, dimanche dernier, à initier la chose, et ce qu'on essaie de faire depuis deux semaines, puisque je ne prêche pas le dimanche, c'est d'essayer d'étudier le verset principal de la prédication du dimanche dans les journées qui suivent. Donc ça s'est bien passé à travers les deux dernières semaines. On verra ce qu'il en est pour la semaine prochaine. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans Josué au chapitre 24. Le verset 15, Josué 24, verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je répète le verset. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et la phrase pour ce matin, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, je vous explique pourquoi, tout d'abord, petit témoignage, pourquoi ce verset est important dans ma vie et bien entendu dans la vie de notre famille en général. Au mois de novembre 1979, mon père, à cette époque-là, était atteint de sclérose en plaques et il était en phase terminale. On sait qu'il était en phase terminale parce qu'on l'avait déjà envoyé à quelques reprises dans ce qu'on appelait à l'époque les cliniques de douleur. Aujourd'hui, on a changé l'appellation de ces secteurs hospitaliers pour soins palliatifs, mais à l'époque, on appelait ça clinique de douleur. Et ça faisait déjà un an et demi qu'il était suivi par les médecins pour une sclérose en plaques. Et vous savez que, si je ne m'abuse, le 11 novembre 1980, sinon mon père à coup sûr va me... 79 plutôt, sinon à coup sûr mon père va indiquer la bonne date, mais il me semble que c'était le 11 novembre. Mon père a été guéri miraculeusement de la sclérose en plaques. Il est entré le matin traîné par deux frères jusqu'à son siège qui lui était réservé à l'église, un fauteuil un peu plus confortable. Ce matin-là, il n'était plus capable de bouger les jambes et on savait donc qu'il était arrivé à un point ultime au niveau de la maladie. Et poussé par l'Esprit Saint, on a une fois de plus prié pour lui ce jour-là. Le pasteur Fontalvaux, qui était le pasteur fondateur de l'Église, et puis donc mon prédécesseur, qui était le pasteur senior, lui a demandé comment il allait. Et mon père lui a répondu qu'en ce jour-là, il allait vraiment moins bien que les semaines et les jours qui étaient passés. Donc le pasteur Fontalvaux l'a assuré qu'on allait prier pour lui à la fin de l'Assemblée. L'Assemblée a eu lieu, comme d'habitude, dimanche matin, cantique, prédication, classe des enfants, puis tout le monde se rejoint pour terminer le culte ensemble. Et avant de terminer le culte, le pasteur Fontalvaux dit, bon, on va prier pour différentes personnes. On va prier pour le frère Bernard. Mon père n'était pas pasteur à l'époque. On va prier pour le frère Bernard qui se sent mal aujourd'hui. Et puis, on va prier aussi. Il y avait une petite fille qui était rentrée d'urgence à l'hôpital avec des convulsions cérébrales. Il y avait un petit garçon qui était rentré aussi à l'hôpital avec une pneumonie très très forte. Donc il y avait différents cas comme ça. Et puis on a donc prié pour ces différents cas. On a prié aussi pour mon père. Et puis le pasteur Fontalvaux s'est approché de lui, poussé par l'Esprit Saint, dit-il, ou disait-il, puisqu'il est décédé aujourd'hui. Il a dit à mon père, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est la première fois qu'il priait ainsi pour mon père et je crois qu'il faut être assuré que Dieu a déterminé qu'aujourd'hui était le jour pour arriver à une telle prière. Et mon père dit que ce jour-là, ce n'est pas la voix du pasteur Fontalvaux qu'il a entendue, mais c'est une voix qu'il ne connaissait pas, mais une voix merveilleuse qui lui a dit, « Mon fils, en mon nom, lève-toi et marche. » Et mon père s'est levé, ce qu'il ne faisait pas depuis un certain temps, et il a marché jusqu'au fond de l'église, ce qu'il ne faisait pas depuis un temps certain, et il est revenu jusqu'à son siège sur la première rangée des bancs de l'église, et il a réalisé ce qui s'était passé alors qu'il était face à son siège, les bras en l'air. Et c'est le jour donc où Dieu l'a guéri de la sclérose en plaques. Et par la suite, et ça a été encore révélé, ces derniers jours, alors qu'il était à l'hôpital, ils ont fait encore des tests et il n'y a aucune trace de sclérose en plaques qui perdure ou qui est restée dans son corps. Et c'est un témoignage à la gloire de Dieu, le fait qu'effectivement la sclérose en plaques, maladie incurable, a été guérie miraculeusement par Dieu ce jour-là. Et comme je vous dis, on était en 79 et aujourd'hui on est en 2021. Les deux enfants qui étaient malades ont été aussi guéris. La petite fille avec convulsions cérébrales, les parents venaient de recevoir l'avis des médecins comme quoi elle était décédée. Et le papa dit qu'il a senti de la part de Dieu d'aller prier pour la petite. Et il a demandé au médecin s'il pouvait donc aller prier pour la petite. Et il a mis sa main sur la petite et il a dit au nom de Jésus. Et à ce moment-là, la petite s'est mise à se débattre. Les médecins ont poussé le père sur le côté, ont rebranché la petite avec tous les moniteurs qui existaient ou qui étaient autour d'elle. Et la petite est aujourd'hui une jeune dame, probablement début de quarantaine, ayant été mariée avec des enfants aussi. Et le papa est rendu grand-papa. Et le petit garçon, qui était là avec une pneumonie le soir même, donc il avait passé la nuit à l'hôpital pour cette pneumonie extrême, et le soir même, il était de retour à l'église et il courait un peu partout dans la salle où on se rassemblait pour louer Dieu. Donc ça, c'est la guérison de mon père. Mais quel est le lien entre cette guérison, cette journée importante du 11 novembre 1979, et puis cette phrase? À l'époque, le pasteur Fontalvo avait l'habitude que lorsqu'on arrivait à la fin de l'année, donc à partir du mois de novembre, à chaque dimanche soir, on demandait à une famille de venir. On n'était pas nombreux à l'époque, on était peut-être une trentaine de membres, une cinquantaine de membres maximum, donc une trentaine de familles. Et on demandait donc à chaque dimanche d'avoir une famille qui viendrait témoigner pour ce que Dieu avait fait durant l'année. Et ça tombait ce jour-là comme quoi nous étions ceux qui devaient témoigner le soir même où mon père a été guéri. Donc, on est rentré à la maison après l'assemblée du dimanche matin. Il s'est passé un épisode un peu particulier. J'avais vu ce qui s'était passé à l'église. Ma sœur avait pleinement saisi. Moi, j'étais à l'époque, je venais de fêter, quelques jours avant, je venais de fêter mon 8e anniversaire. Donc, je voyais mon père marcher, mais je n'avais pas nécessairement saisi pleinement ce qui se passait. Et puis donc, quand on est arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, ben, si tu es guéri, tu peux donc faire ce que tu faisais auparavant. Et mon père m'a dit, mais de quoi tu parles? J'ai dit, ben, à l'époque, tu étais, avant que tu sois malade, tu étais capable de me prendre, de me lever et de me faire toucher la cime de la tête, de me faire toucher le plafond avec la cime de la tête. Et mon père me prend, il me lève et puis il me fait donc toucher le plafond avec ma tête. Alors, fou comme un petit garçon qui vient de comprendre ce qui s'est passé, je courais un peu partout dans la maison. Et c'est là que j'ai réalisé effectivement que mon père avait été guéri. Donc le soir même, on était de retour à l'église. À l'époque, on avait deux assemblées le dimanche, notre culte régulier du dimanche matin et assemblée le dimanche soir. Et puis, donc, on était attitré à témoigner ce dimanche soir. Donc, bien entendu, c'était une journée spéciale puisque mon père venait d'expérimenter quelque chose de tout merveilleux le matin et tout le monde s'attendait un peu à voir, mais qu'est-ce qu'on va dire, quel va être le témoignage, est-ce qu'on a les mots pour expliquer. Mon père a été très, très simple dans son témoignage. Il a dit, avec ce qui s'est passé ce matin, j'ai pas grand-chose à dire, je sais pas trop quoi vous dire, à part comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça a été cette prière qu'il a faite et ce désir qu'il a émis devant le Seigneur. Et effectivement, quelques années plus tard, mon père se retrouvait dans le ministère, tout d'abord à Shawinigan, où on avait une église à l'époque. Et puis par la suite, Dieu a ouvert les portes pour que mes parents puisse débuter une œuvre à Narbonne, là où ma sœur, avec son mari, travaille toujours à titre de pasteur, donc de notre église à Narbonne. Donc mon père devenu pasteur, ma sœur, des années plus tard, avec son époux qui prend la relève de mes parents à Narbonne, et moi, bien entendu, qui, malgré un parcours un peu chaotique. Je vous ai dit cette expérience où j'ai dit adieu même si j'avais senti l'appel de Dieu à mes 8 ans, donc quelques mois après la guérison de mon père, où je vais le voir en lui disant, ben, quand je vais être grand, je veux être pasteur, et que lui, le pasteur Fontalvaux, prie pour moi ce dimanche matin. Vous savez que j'ai dit à Dieu quelques années plus tard, regarde mon dos, c'est la dernière chose que tu vois, je m'en vais. Et malgré tout cela, après un petit périple à l'extérieur de 4 ans, je suis revenu dans les voies de Dieu. Il est revenu me chercher, j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter comment. Mais aujourd'hui, bon, près de 40 ans après cette guérison, 40 ans après cette guérison, 41 ans même, après cette guérison, et puis près de 20 ans et quelques, presque 30 ans, après cette prière où je disais à Dieu, oublie mon dos, regarde-moi de face et puis je reviens vers toi. Donc aujourd'hui, je sers le Seigneur à titre de pasteur. Donc cette prière ou cette phrase de Josué a été reprise le soir de la guérison de mon père où il disait donc que lui et sa famille serviraient l'Éternel. Et effectivement, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, la guérison de la sclérose en plaques est ferme, formelle, réelle, établie, puisque encore cette semaine, parce qu'on soupçonne quelques problématiques au niveau neurologique pour mon père, donc on a fait des tests IRM, donc résonance magnétique, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cerveau et tout ça. Et puis ils n'ont rien trouvé qui s'apparente le moindrement à ce qui est la sclérose en plaques. Et mon père avait dit au médecin, je vous avais dit que vous ne trouveriez rien parce que j'ai été guéri de cela. Alors c'est encore l'occasion de témoigner de tout cela. Donc voilà comment ce verset est devenu important pour nous en tant que famille et puis l'incidence que ce verset a eu sur ma vie. Assurément, pendant les 4 ans où je me suis éloigné, j'ai été frustré contre cette phrase de mon père et j'ai été frustré aussi contre la prière que mon père et le pasteur Fontalvaux avaient fait à mon égard lorsque je disais que je voulais devenir pasteur. Donc pendant 4 ans, je ne le voulais plus, mais assurément aujourd'hui, bien des années plus tard, je comprends que c'était la main de Dieu qui faisait toutes choses et qui nous a gardés encore jusqu'à aujourd'hui et qui nous garde encore jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'était la petite facette témoignage pour vous dire que Dieu agit encore et que Dieu agit encore de façon miraculeuse aujourd'hui. Mais de surcroît à cela, allons simplement dans cette courte phrase. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vous savez que servir, comme on l'a vu depuis le début de la semaine, c'est le terme hébreu « abad » qui veut dire « travailler », qui veut dire « faire exécuter un labeur », qui veut dire « être le sujet d'un roi », donc avoir un souverain au-dessus de nous, et être forcé à œuvrer. Et assurément, lorsqu'on parle d'une vocation, puisque le ministère est une vocation, et puisque nous tous sommes appelés à servir, de surcroît à la question stricte du ministère, on doit comprendre qu'effectivement nous avons été créés pour servir. Certains embrassent le service, certains y résistent, mais chose évidente et claire dans la parole de Dieu, c'est que nous sommes tous appelés à servir Dieu. La question est de savoir, va-t-on servir avec un cœur qui est disposé? Où va-t-on faire la tête dure, la dure oreille, avoir le cou raide et forcer pratiquement Dieu à nous amener à servir? Dieu ne nous force pas à servir en nous tordant le bras. Il nous pousse à servir en ne lâchant pas son insistance sur nos vies quant à son appel. L'abbé nous dit que Dieu ne se repent pas de son appel. Alors même quand on lui tourne le dos, et même quand on lui dit « regarde mon dos et puis je m'en vais », c'est la dernière chose que tu vois, ça ne change pas l'opinion de Dieu, ça ne change pas la décision de Dieu, et ça ne change pas l'appel de Dieu. La Bible nous dit qu'il ne se repent pas ni de ses dons, ni de son appel. Alors jusqu'à un certain point, c'est peine perdue pour toi et pour moi d'essayer de résister à Dieu. En fait, c'est aller à contre-nature, parce que nous avons été créés pour servir, nous avons été créés pour un service déterminé, déjà éternellement établi par Dieu. On se rappelle ce verset concernant Jérémie, où Dieu va lui dire, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que de toute éternité, avant même que nous ne voyions le jour, avant même que notre existence ne débute, Dieu avait déjà établi de toute éternité qu'il voulait nous utiliser tout un chacun, dans des dons, dans des habiletés, dans des fonctions, dans des positions au sein du corps de Christ qui diffèrent d'une personne à l'autre, mais chacun d'entre nous avons été créés avec un propos tout à fait défini et particulier de Dieu. Et la question pour toi et pour moi, c'est quelle est la réponse qu'on va offrir à cet appel, à ce mandat qui nous est donné par Dieu. Donc, est-ce qu'on va être forcé à œuvrer parce que avec ces appels répétitifs, où allons-nous embrasser la volonté de Dieu? Je peux vous dire que dans un face-à-face avec le Seigneur, dans une lutte ouverte avec la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas gagner. Je me croyais assez têtu et honnêtement, je crois que je suis quand même quelqu'un d'assez têtu. Lorsque j'ai une idée en tête, c'est difficile de me l'enlever. Mes parents pourront assurément vous confirmer la chose. Mon épouse pourra assurément vous confirmer la chose. J'ai tendance à être un peu têtu lorsque, après réflexion, j'en viens à une décision. Alors, ma décision de dire adieu, alors que ça avait été un rêve de le servir, et ma décision de dire adieu, je te quitte, je t'abandonne, je te tourne le dos, même s'il était définitive à mes yeux, Dieu est encore bien plus têtu, a encore plus la tête dure qu'aucun de nous ne pourrait parvenir à avoir une tête dure, plus dure que celle de Dieu. Donc, Dieu a continué à frapper à la porte, à frapper à la porte, à frapper à la porte. Il a continué à faire entendre sa voix et il continue à faire entendre sa voix dans la vie de chacun d'entre nous jusqu'à ce que nous décidions, pour notre part, de façon tout à fait personnelle, d'ouvrir la porte. Et la Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Et assurément, depuis quelque part au mois d'août 89, lorsque je suis retourné dans les voies de Dieu, assurément, ma vie a changé. Et non seulement je suis revenu à Dieu pour le salut, effectivement, mais bien plus encore pour servir Dieu de façon claire et définitive. Et tous mes plans ont changé ce jour-là. Donc oui, nous servons la maison de l'Éternel, non pas comme forcés, mais comme ayant embrassé la volonté de Dieu. Et je peux vous dire, je l'affirme encore aujourd'hui, des années plus tard, je fais le plus beau métier qui soit, pas parce que je suis pasteur, pas parce que je suis responsable d'une église. Je fais le plus beau métier qui soit parce que je fais ce que je crois exactement être, ce que Dieu avait comme propos pour moi. Et je réponds assurément à l'appel et au dessein que Dieu avait pour moi de toute éternité. Et il n'y a pas de meilleur sentiment, il n'y a pas de meilleur endroit, il n'y a pas de meilleure fonction à occuper que celle d'être en train de faire exactement ce pour quoi nous avons été créés. J'ai le sentiment de vivre pleinement ma vie parce que je vis pleinement l'appel de Dieu pour mon existence. De surcroît à cela, par contre, comprenons une chose, quand on parle du labeur, lorsqu'on parle de servir Abad, c'est fait avec plaisir, oui, c'est fait avec joie, oui, mais c'est fait malgré tout en demande, dans le sens où on a une demande de temps, on a une demande d'effort qui nous est faite par ce, par ce travail auquel on a été convié. Donc le travail de Dieu se fait avec joie, effectivement. Il faut arrêter ces discours qu'on a trop souvent en disant, ah, le travail de Dieu, c'est tellement demandant, c'est tellement éreintant, c'est tellement difficile, c'est tellement exigeant. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir Dieu. Toutefois, effectivement, il y a un coût. Il y a un coût. Le travail de Dieu exige un coût. Il y a certaines personnes qui vont abandonner le travail de Dieu à cause du coût qui y est attaché. Il y a un coût sur le temps. Il y a un coût sur le physique parce qu'on déploie nos efforts, on déploie notre temps, on déploie toute notre énergie pour la chose. Donc oui, il y a un coût. Il y a un coût pour la famille. Servir Dieu a voulu dire qu'à un moment donné, notre famille a été déracinée de son existence à Montréal pour être parachutée à Shawinigan. Et par la suite, notre famille a été déracinée de Shawinigan pour être parachutée à Narbonne en France. Et chacun de ces déménagements, chacun de ces parachutages, si on veut dire, a eu une exigence sur notre vie, sur notre famille. Donc, assurément, il y a un coût à servir Dieu. Par contre, une chose qui est merveilleuse dans ce verset, c'est et qu'on doit comprendre. Josué va dire « moi et ma famille ». Je ne crois pas que mon père saisissait pleinement ce verset-là à cette époque. Peut-être qu'il saisissait, on n'en a jamais parlé nécessairement, mais probablement qu'il ne saisissait pas pleinement le coût qui était rattaché, le coût qui était lié. Quand on parle de « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'était non seulement la voix de Josué, mais cet appel et cette conviction de servir l'Éternel, c'est que Josué prenait aussi l'engagement que ses enfants allaient aller dans cette voie. Le salut est une décision tout à fait personnelle. Le salut est une décision que chacun d'entre nous prenons individuellement et respectivement face à Dieu. Mais quant à l'éducation face au service de Dieu, c'est un enseignement qu'en tant que parents, nous donnons aussi à nos enfants. Vous allez me dire, je n'ai pas d'enfant, mais spirituellement, effectivement, je suis pasteur d'une église, donc j'ai un certain rôle de paternité par rapport à une église, par rapport à une congrégation, par rapport à des jeunes gens dans l'église, à des gens qui se convertissent sous mon ministère. Et face à eux, j'ai cette même responsabilité qu'un papa ou qu'une maman peut avoir quant à enseigner à nos enfants spirituels ou naturels l'importance, un, de se tourner vers Dieu et l'importance de servir Dieu. Voilà pourquoi vous voyez très régulièrement dans mes interventions, c'est un thème récurrent dans ma vie, en ce qui a trait à l'importance du service de Dieu. Je ne peux pas rester sans servir Dieu. Je ne peux pas vivre ma vie sans servir Dieu. Ma vie, en fait, c'est servir Dieu. Et ma vie est aussi amener ceux qui m'entourent à servir Dieu et à servir Dieu avec un même engagement, avec un même dévouement personnel. Je comprends qu'il y a une différence entre servir Dieu au sein de l'Église et être ce qu'on appelle un ministre. Et vous avez ce verset où Paul va dire que si quelqu'un a été appelé au ministère, qu'il s'attache à son ministère. Et ce verset est relié à un passage qui dit aussi que Dieu a fait des dons à l'Église. Et ces dons-là qu'il fait à l'Église, on ne parle pas ici des charismes spirituels, on ne parle pas ici du don des langues, du don de prophétie, du don du parler en langue ou des miracles, des prodiges, du don de sagesse ou autre. Ce ne sont pas de ces dons-là qu'on parle, mais il parle effectivement de ces hommes qui ont un ministère et qui sont donnés à l'Église. Donc, assurément, il y a ce coût qui fait en sorte que nous avons un impact sur notre famille et sur les gens qui nous entourent. Mais au-delà de la question du ministère en tant que pasteur, je ne peux m'empêcher de vous rappeler. Vous ne pouvez pas être sauvé sans servir. Ça a été à la base de notre enseignement en début de semaine. sauvé pour servir, ce petit sigle que l'armée du salut porte sur ses uniformes et qui devrait être greffé dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous sommes sauvés pour servir. Moi et ma maison nous servirons. C'est cette pensée que Josué avait en disant, ce n'est pas simplement moi en tant que leader du peuple d'Israël qui les a conduits dans cette conquête de Canaan, qui est seul à être appelé à servir Dieu, mais c'est moi et l'ensemble de ma famille. Et aujourd'hui, tu as ce même dilemme devant toi. Tu as cette même décision à prendre devant toi. Est-ce que tu vas servir Dieu? Est-ce que tu vas pousser tes enfants à comprendre l'importance de servir Dieu? En tant que parent, c'est ta responsabilité. Si tu occupes une position dans l'église de leadership au niveau d'un département, il est de ta responsabilité de veiller à ce que les gens autour de toi comprennent l'importance de servir avec acharnement, de servir avec dévotion, avec dévouement, avec engagement profond. Alors ce matin, je vous laisse avec ce défi. Je vous mets effectivement devant votre responsabilité. Un peu comme Josué l'a fait avec sa génération en disant, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors décidez aujourd'hui qui vous servirez. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à moi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors décidez qui vous servez aujourd'hui. Alors voilà, je m'arrête là pour ce matin. On va juste prier pour compléter. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait il y a près de 30 ans maintenant, même 35 ans. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Merci parce que ta voix se fait encore entendre. Tu te tiens encore à la porte de ceux qui ont résisté jusqu'à présent. Et tu frappes. Et tu appelles nos noms. Et tu nous dis, Seigneur, que si quelqu'un entend et qu'il ouvre la porte, tu entres et tu soupes avec lui. Seigneur, dans ma vie, c'est depuis 88 qu'effectivement j'ai ce souper avec toi. Et quelle grâce, Seigneur, de te servir. Quelle grâce, Seigneur, et quel honneur de pouvoir, aux côtés de mes frères et de mes sœurs, voir même dans cette petite particule qu'est notre église locale et qu'est l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, prendre une part, Seigneur, active à l'avancement de ton royaume. Seigneur, si on comprenait qui nous servons, si on comprenait quelle cause nous servons, aucun d'entre nous n'hésiterait à te servir. Alors je prie, Seigneur, pour cette congrégation que tu as placée à mes côtés, pour cette équipe de serviteurs que tu as mis à mes côtés. Je te prie, Seigneur, que nous saisissions l'importance de cette époque, l'importance de cet appel que tu as lancé sur chacun d'entre nous de toute éternité. Seigneur, les journées raccourcissent. La vie, Seigneur, nous enlève quotidiennement une journée de plus. Chaque jour, on a une journée de moins pour remplir cet appel auquel tu nous as conviés. Alors, je prie, Seigneur, pour moi. Je prie aussi pour notre congrégation, pour l'ensemble des congrégations pour lesquelles tu nous as permis d'œuvrer en tant que superviseur. Mais aussi, Seigneur, pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui ou dans les prochaines semaines et qui ont eux aussi, ces personnes qui ont elles aussi, un appel sur leur vie. Je prie, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne passe à côté de cet appel. Pour moi, personnellement, je n'y réponds pas, Seigneur, avec le bras qui est tordu dans mon dos. Je prie, Seigneur, de ne pas y répondre avec l'oreille qui se fait tirer ou le cou qui est raide, mais je prie, Seigneur, d'y répondre favorablement, instantanément, sachant qu'il n'y a pas de meilleur endroit où vivre que dans ta volonté, dans ta parfaite volonté. Alors, bénis ces paroles qu'on a échangées ce matin d'un, d'un aspect un peu plus relax, un peu plus simple, d'un aspect un peu plus agréable peut-être parce qu'on parle de témoignage. Mais je prie, Seigneur, que ces paroles entrent profondément dans le cœur, dans les pensées de ma sœur et de mon frère, et que tu les visites aujourd'hui. Oint cette parole par ton esprit et permet, Seigneur, qu'elle trouve un terrain, un terreau agréable, profitable, dans lequel elle peut pousser, s'enraciner et porter du fruit pour toi. Bénis ma sœur et bénis mon frère aujourd'hui. Parle-nous respectivement. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Simplement vous rappeler notre rendez-vous de ce soir, notre soirée de prière et d'intercession. Je remonte un peu juste pour saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous et qu'on n'aurait pas saluées tout à l'heure. Donc, simplement vous rappeler notre rendez-vous à 19h, heure de Montréal, ce soir, pour notre temps de prière et d'intercession. On vous rappelle, le pasteur Giacomin est donc sorti de l'hôpital. Il est à la maison. Le pasteur Jonas est aussi sorti de l'hôpital. Il est en convalescence à la maison. Le frère Eric est sorti des soins intensifs. Il est maintenant dans un département régulier de pneumologie et de soins thoraciques. Et on pense que la trachéotomie qu'il a subie sera passagère, tout simplement. Mais on continue à prier donc pour ces trois bien-aimés. Alors bonjour à la sœur Maggie, bonjour à Eduardo, bonjour à Almac, que Dieu vous bénisse. Bonjour à la sœur Argelia, bonjour à Denise. Je crois que j'ai déjà salué Daniel, mais je le resalue. Bonjour à Myriam et à Donald. Et je pense que c'est tout pour ce matin, du moins de ce que j'ai pu voir. Alors sur ce, on vous souhaite une très belle journée. On se retrouve donc ce soir à 19h pour notre temps de prière, d'intercession. Bonjour à Sonny aussi, que je viens de voir apparaître. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Et puis donc, à ce soir. Dieu vous bénisse tout le monde. Bonne journée.